Chapitre 76. De la neige et des détritus déferlent sur Ultuna, balaient les champs et les routes, s'engouffrent entre les bâtiments industriels. Le vent rugit comme un moteur d'avion. Obstruée par la neige, la haute clôture qui entoure la clinique de recherche sur le sommeil ressemble à un mur blanc bosselé. Deux fourgonnettes noires sont garées devant l'établissement. Pendant le trajet, alors que la brûlure des gaz lacrymogènes s'atténuait dans sa gorge, Thor a rappelé à son équipe qu'il ne fallait en aucun cas tirer sur les serrures. Il sort le dernier de la voiture et sa barbe se recouvre aussitôt de neige. Tournant le dos au vent violent, il rejoint ses collègues derrière la seconde fourgonnette. Sur le chantier voisin, une grue s'est effondrée et repose brisée sur un engin de chantier. « Écoutez, » dit Thor calmement. « Vu la taille du bâtiment, nous ne sommes pas assez nombreux, et toutes les communications sont coupées à cause de la tempête. Réseau mobile, centre de commandement, numéro d'urgence, radio sécurisé, donc pas de renfort. Mais nous sommes là, nous avons une mission, et nous savons ce qu'il nous reste à faire avant de pouvoir rentrer à la maison et enlacer nos proches. L'objectif est de pénétrer dans la clinique en forçant simultanément l'entrée principale et celle du personnel. Fouiller chaque pièce, localiser le suspect et procéder à son arrestation. Par égard pour les patients et les chercheurs, ils doivent s'annoncer et n'utiliser les gaz et les grenades assourdissantes qu'en cas d'absolue nécessité. Quel temps de merde, grogne Nolan en se dirigeant vers la clôture avec une grande pince coupante.
Il n'y a pas de mauvais temps, seulement de mauvais vêtements, répliquent en chœur deux opérateurs.
Nolan découpe une large ouverture dans le grillage, rabat les bords et les fixe avec des colliers de serrage. Thor allume la lampe fixée à son casque. Il songe qu'il devrait parler à quelqu'un de l'impact de la maladie mentale de Christina sur sa concentration, du fait qu'elle l'épuise et le pousse même à voir des choses qui n'existent pas.
C'était pas plus simple de la défoncer, plaisante un des hommes en franchissant l'ouverture.
Thor échange un regard avec Nolan, puis, d'un signe de tête, indique leur itinéraire d'approche. Quatre membres de l'équipe d'intervention se dirigent rapidement vers l'entrée principale, tandis que Thor et Nolan courent vers l'entrée du personnel. La toiture secouée par le vent grince dangereusement et quelques tuiles s'écrasent au sol. La lampe torche de Thor éclaire un instant le dos de Nolan, faisant briller la bande réfléchissante de son gilet dans l'obscurité. Il contourne un pilier en béton et débouche sur une vaste aire de stationnement recouverte d'un auvent. Quatre voitures sont garées. Du mobilier de jardin en plastique blanc vole au-dessus des emplacements vides. Il y a tellement de neige sur la visière de Thor qu'il doit s'arrêter pour l'épousseter. Le vent frappe la façade, change de direction, soulève des amas de neige. Il a la sensation d'évoluer dans un rêve étrange, un chaos mouvant où les directions et les vitesses se déforment, où la gravité est abolie. Noah avance jusqu'à la première voiture. La neige s'est accumulée sur l'asphalte et forme une digue semblable à une vague sur le point de se briser sur le mur de la clinique. Thor se sent fébrile. Remarque qu'il se fixe sur des détails inutiles. Il essuie la neige de ses yeux et suit Nolan. Une pie morte gît au sol près d'une voiture rouge. Nolan monte sur le quai de chargement en béton, gravit l'escalier métallique, s'arrête devant la porte de service et sort la meuleuse. Thor sent la sueur couler dans son dos. Il est soudain traversé par l'impression terrifiante que quelqu'un fonce sur lui au cœur de la tempête. Il se retourne en gémissant et lève son arme. Un bruit strident et métallique retentit, des étincelles jaillissent de la meuleuse et rebondissent sur le quai. Il abaisse son arme et retire le doigt de la détente. Sous l'auvent, la lumière vacille entre les voitures. Thor scrute l'obscurité sous l'escalier métallique et croit apercevoir un serpent noir s'enrouler sur lui-même. Il se force à détourner le regard, puis avance vers l'une des voitures et s'attarde sur le délicat motif de givre sur le pare-brise, semblable à de la dentelle. Des morceaux de charnière teintent contre le béton de la rampe. Dans l'éclat tremblant de la meuleuse, Thor distingue d'étranges empreintes autour de la voiture la plus éloignée, comme des traces de chaussures, mais avec le gros orteil séparé, à la façon d'une moufle. La plaque d'immatriculation scintille. C'est la Tesla que la police recherche. Thor lève son fusil automatique et avance prudemment. À travers la vitre latérale, il distingue une silhouette au volant. Un crâne nu, un cou, des épaules. Une vague d'adrénaline inonde son corps. Il se sent vibrer comme une pièce métallique chargée d'électricité statique, prête à provoquer une décharge au moindre contact. Il avale sa salive, vise la silhouette, place son doigt tremblant sur la détente et se déplace prudemment sur le côté. La lumière pénètre dans l'habitacle. Thor s'arrête. Lars Grint est assis, la tête renversée en arrière et les yeux fermés. Son visage est blanc comme de la cendre, ses sourcils couverts de givre. Thor ouvre la portière et recule d'un pas, son arme pointée sur Grint. Il s'approche de nouveau, coince sa main droite sous son bras gauche pour ôter son gant, tend la main et pose ses doigts sur la gorge glacée du docteur, même s'il sait déjà qu'il est mort. Le métro sort d'un virage en grinçant et reprend de la vitesse. Hugo est assis dans une rame presque vide, ressentant dans tout son corps les vibrations du train. En face de lui, une femme, les bras chargés de sacs Ikea, semble accablée par la fatigue. Dans le reflet des vitres, Hugo a remarqué un jeune homme assis quelques rangées derrière lui, le visage dissimulé sous la capuche de son blouson. Il a les bras croisés comme s'il grelottait. Ses mains, pâles et maigres, paraissent dépourvues de toute chair. Hugo a attendu Lars Grint pendant une heure en compagnie de Svanhilda. Puis il a décidé de renoncer à ses médicaments et de quitter la clinique. Il a pris le bus vers Uppsala, au milieu des arbres secoués par la tempête et des branches brisées. Des détritus tournoyaient sur la place autour de la fontaine et le grand sapin de Noël gisait au sol, renversé. Devant la gare, des lambeaux de drapeaux déchirés battaient au vent. Lorsque le train régional s'est approché de Stockholm, la neige saturait tout l'espace. À l'arrivée à la gare Tecentralen, les annonces se sont succédées pour signaler des retards et des suppressions de trains. Comme d'habitude, il a pris la ligne rouge en direction de Norsborg. Alors qu'il s'installait dans le train, il a vu le jeune homme se faufiler dans la rame juste avant la fermeture des portes. Les lampes du plafond clignotent. Hugo consulte son téléphone et découvre que Lars Grint lui a envoyé son dossier médical, accompagné de quelques mots. « Cher Hugo, je t'écris pour te demander pardon et te dire que tu fais bien de me signaler à l'inspection des soins et de la santé. J'ai probablement franchi certaines limites éthiques, souvent par précipitation. Une ironie du sort, puisque c'est justement par manque de temps que je n'ai pas pris soin de faire examiner ma prostate. J'aurais tellement voulu laisser derrière moi quelque chose de durable, susceptible d'aider la prochaine génération de chercheurs à trouver des réponses. Tu as été comme un fils pour moi. Avec toute mon affection, Lars. » Hugo tente d'appeler Lars, mais son téléphone est éteint. Envahi par l'angoisse, il contemple un instant la tempête qui se déchaîne. Puis, dans un soupir, il se plonge dans son dossier médical. Tout y est consigné depuis ses premières visites à la clinique, lorsqu'il avait 6 ans. Le jeune homme derrière lui murmure nerveusement pour lui-même. Le métro a dépassé Liljeholmen, lorsque soudain, il ralentit et s'arrête en plein tunnel. Le conducteur annonce une panne de courant, précise que le train fonctionne désormais sur batterie et qu'il atteindra la prochaine station, mais n'ira pas plus loin. Il poursuit et explique que des informations sur les bus de remplacement leur seront communiquées sur le quai, à Aspudden.